Chapitre 40 Esther reparaît à Fleur de Paris. De la bourse à la rue Thébou, le baron dit 7 fois à son domestique « Vous n'allez pas ! Voyez donc le jeu fale !» Il grimpa lestement et trouva pour la première fois sa maîtresse, belle comme le sont ses filles, dont l'unique occupation est le soin de leur toilette et de leur beauté. Sortie du bain, la fleur était fraîche, parfumée à inspirer des désirs à Robert d'Arbrissel. Esther avait fait une demi-toilette délicieuse. Une redingote de reps noir, garnie en passementerie de soie rose, s'ouvrait sur une jupe de satin gris, le costume que se fit plus tard la belle Amigo dans « I Puritani ». Un fichu de point d'Angleterre retombait sur les épaules en badinant. Les manches de la robe étaient pincées par des liserés pour diviser les bouffants que, depuis quelque temps, les femmes comme il faut avaient substituées aux manches à gigot devenues monstrueuses. Esther avait fixé par une épingle, sur ses magnifiques cheveux, un bonnet de maline, dit « à la folle », près de tomber et qui ne tombait pas, mais qui lui donnait l'air d'être en désordre et mal peignée, quoique l'on vît parfaitement les raies blanches de sa petite tête entre les sillons des cheveux. N'est-ce pas une horreur, dit Europe au baron en lui ouvrant la porte du salon, de voir madame si belle dans un salon passé comme celui-là. Eh bien, Fenéry-Saint-Georges, dit le baron en restant en arrêt comme un chien devant une perdrix, le dent est magnifique. Nous nous promènerons aux Champs-Élysées. Et madame Saint-Estève, avec Ichénie, transborderont d'outre votre toilette, votre linche et notre tinée à la rue Saint-Georges. Je ferai tout ce que vous voudrez, dit Esther. Si vous voulez me faire le plaisir d'appeler ma cuisinière, Asie, et Eugénie, Europe. J'ai surnommé ainsi toutes les femmes qui m'ont servi, depuis les 2 premières que j'ai eues. Je n'aime pas le changement.
Ah, si? « I robe ?» répéta le baron en se mettant à rire.
« Comme vous êtes drôle, vous savez des imaginations. J'aurais manché bien des tinets afin te nommer à une cuisinière assis. »«
C'est notre état d'être drôle, » dit Esther. « Voyons, une pauvre fille ne peut donc pas se faire nourrir par l'Asie et habiller par l'Europe, quand vous, vous vivez de tout le monde. C'est un mythe, quoi. » Il y a des femmes qui mangeraient la terre, il ne m'en faut que la moitié, voilà.
Quelle femme que Montame Saint-Estève !
Se dit le baron en admirant le subit changement des façons d'Esther. Europe, ma fille, il me faut un chapeau, dit Esther. Je dois avoir une capote de satin noir doublée de rose, garnie en dentelle. Madame Thomas ne l'a pas envoyée. Allons, baron, vite, haut la patte ! Commencez votre service d'homme de peine, c'est-à-dire d'homme heureux. Le bonheur est lourd. Vous avez votre cabriolet. Allez chez madame Thomas, dit Europe au baron. Vous ferez demander par votre domestique la capote de madame Van Boxeck. Et surtout, lui dit-elle à l'oreille, rapportez-lui le plus beau bouquet qu'il y ait à Paris. Nous sommes en hiver, tâchez d'avoir des fleurs des tropiques. Le baron descendit et dit à son domestique « J'ai Montame Thomas ». Le domestique mena son maître chez une fameuse pâtissière.
« C'est un marchand de mottes, fichy pédate, et un nom de cato »,
dit le baron, qui courut au palais royal chez madame Prévost, où il fit composer un bouquet de 10 louis pendant que son domestique allait chez la fameuse marchande de mode. En se promenant dans Paris, l'observateur superficiel se demande quels sont les fous qui viennent acheter les fleurs fabuleuses qui parent la boutique de l'illustre bouquetière et les primeurs de l'européen chevet, le seul, avec le rocher de Cancale, qui offre une véritable et délicieuse revue des deux mondes. Il s'élève, tous les jours, à Paris, 100 et quelques passions à la Nucingen, qui se prouvent par des raretés que les reines n'osent pas se donner et qu'on offre, et à genoux, à des filles qui, selon le mot d'Asie, aiment à flamber. Sans ce petit détail,
une honnête bourgeoise ne comprendrait pas comment une fortune se fond entre les mains de ces créatures. Après tout, leur fonction sociale dans le système fourriériste est peut-être de réparer les malheurs de l'avarice et de la cupidité. Leurs dissipations sont peut-être au corps social ce qu'un coup de lancette est pour un corps pléthorique. Nucingen venait d'arroser l'industrie de plus de 200 000 francs. Quand le vieil amoureux revint, la nuit tombait, le bouquet était inutile. L'heure d'aller aux Champs-Élysées, en hiver, est de 2 heures à 4. Mais la voiture servit à Esther pour se rendre de la rue Thébou à la rue Saint-Georges, où elle prit possession de Petite Palais. Jamais, disons-le, Esther n'avait encore été l'objet d'un pareil culte, ni de profusion pareille. Elle en fut surprise et se garda bien, comme toutes ces royales ingrates, de montrer le moindre étonnement. Quand vous entrez dans Saint-Pierre de Rome, pour vous faire apprécier l'étendue et la hauteur de la cathédrale des cathédrales, on vous montre le petit doigt d'une statue qui a je ne sais quelle longueur et qui vous semble un petit doigt naturel. Or, on a tant critiqué les descriptions, néanmoins si nécessaires à l'histoire de nos mœurs, qu'il faut imiter ici le cicérone romain. Donc, en entrant dans la salle à manger, le baron ne put s'empêcher de montrer à Esther l'étoffe des rideaux de croisée, drapée avec une abondance royale, doublée en moire blanche et garnie d'une passementerie digne du corsage d'une princesse portugaise. Cette étoffe était une soierie de Chine, où la patience chinoise avait su peindre les oiseaux d'Asie, avec une perfection dont le modèle n'existe que sur les vélins du Moyen-Âge, ou dans le missel de Charles Quint, l'orgueil de la bibliothèque impériale de Vienne. Elle a goudé 2 000 francs l'aune à une milord qui l'a rapporté tes saintes. Très bien, charmant. Quel plaisir ce sera de boire ici du vin de champagne, dit Esther. Du moins la mousse n'y jaillira pas sur du carreau.
Oh, madame, dit Europe, mais voyez donc le tapis.
Comme on avait tessiné la tapis, Birlatuc d'Orlonia, mon ami, qui le trouve trop cher, je l'ai pris pour vous, qui aide une reine, dit Nucingen en montrant le tapis. Par un effet du hasard, ce tapis, dû à l'un de nos plus ingénieux dessinateurs, se trouvait assorti aux caprices de la draperie chinoise. Les murs avaient été peints par Diaz et représentaient de délicieuses scènes, toutes voluptueuses, qui ressortaient sur des ébènes sculptées, acquis à prix d'or chez Dussommerard, et formant des panneaux où de simples filets d'or attiraient sobrement la lumière. Maintenant, vous pouvez juger du reste.
Vous avez bien fait de m'amener ici, dit Esther. Il me faudra bien 8 jours pour m'habituer à ma maison et ne pas avoir l'air d'une parvenue.
Ma maison ! Répétait joyeusement le baron. Vous acceptez donc ?
Mais oui, 1000 fois oui, animal bête, dit-elle en souriant.
Animal était assez.
Bête est pour la caresse, reprit-elle en le regardant.
Le pauvre loup Servier prit la main d'Esther et la mit sur son cœur. Il était assez animal pour sentir, mais trop bête pour trouver un mot.
Foyez comme il pas, bire un petite motte de tendresse, reprit-il.
Et il emmena sa déesse, Théesse, dans la chambre à coucher.
Oh, madame, dit Eugénie, je ne peux pas rester là, ça parle trop au cœur.
Eh bien, dit Esther, je veux rendre heureux le magicien qui opère de tels prodiges. Allons, mon gros éléphant, après le dîner, nous irons ensemble au spectacle. J'ai une fringale de spectacle. »
Il y avait précisément 6 ans qu'Esther n'était allée à un théâtre. Tout Paris se portait alors à la Porte Saint-Martin pour y voir une de ces pièces auxquelles la puissance des acteurs communique une expression de réalité terrible, Richard Darlington. Comme toutes les natures ingénues, Esther aimait autant à trembler qu'à se laisser aller aux larmes du bonheur.
Nous irons voir Frédéric Lemaître, dit-elle. J'adore cet acteur-là.
C'est une trame sauvage,
dit Nucingen, qui se vit contraint en un moment de s'afficher. Le baron envoya son domestique prendre une des deux loges d'avant-scène aux premières. Autre originalité parisienne. Quand le succès, au pied d'argile, emplit une salle, il y a toujours une loge d'avant-scène, allouée 10 minutes avant le lever du rideau. Les directeurs la gardent pour eux quand il ne s'est pas présenté pour la prendre, une passion à la Nucingen. Cette loge est, comme la primeur de chevet, l'impôt prélevé sur les fantaisies de l'Olympe parisien. Il est inutile de parler du service. Il y avait 3 services. Le petit service, le moyen service, le grand service. Le dessert du grand service était en entier assiettes et plats de vermeil sculpté. Le banquier, pour ne pas paraître écraser la table de valeur d'or et d'argent, avait joint à tous ses services une délicieuse porcelaine de la plus charmante fragilité, genre Saxe, et qui coûtait plus qu'un service d'argenterie. Quant au nappage, le linge de Saxe, le linge d'Angleterre, de Flandre et de France rivalisaient de coquetterie avec leurs fleurs damassées. Au dîner, ce fut le tour au baron d'être surpris en goûtant la cuisine d'Asie.
« Je comprends, dit-il. Pourquoi nommer Assis ? C'est une cuisine asiatique. »
« Ah, je commence à croire qu'il m'aime, dit Esther à Europe. Il a dit quelque chose qui ressemble à un mot.
« Il y en a plusieurs, dit-il.
« Eh bien, il est encore plus turcaré qu'on le dit !» s'écria la rieuse courtisane à cette réponse digne des naïvetés célèbres échappées au banquier. La cuisine avait été faite pour donner une indigestion au baron, afin qu'il s'en allât chez lui de bonne heure. Aussi fut-ce tout ce qu'il rapporta de sa première entrevue avec Esther en fait de plaisir. Au spectacle, il fut obligé de boire un nombre infini de verres d'eau sucrée en laissant Esther seule pendant les entractes. Par une rencontre si prévisible qu'on ne saurait la nommer un hasard, Tullia, Mariette et Madame Duval-Noble se trouvaient au spectacle ce jour-là. Richard Darlington fut un de ces succès fous et mérités d'ailleurs, comme il ne s'en voit qu'à Paris. En voyant ce drame, tous les hommes concevaient qu'on pût jeter sa femme légitime par la fenêtre, et toutes les femmes aimaient à se voir injustement victimées. Les femmes se disaient « C'est trop fort, nous ne sommes que poussées, mais ça nous arrive souvent. » Or, une créature de la beauté d'Esther, mise comme Esther, ne pouvait pas flamber impunément à l'avant-scène de la Porte Saint-Martin. Aussi, dès le second acte, y eut-il dans la loge des 2 danseuses une sorte de révolution causée par la constatation de l'identité de la belle inconnue avec la torpille.
« Ah ça, d'où sort-elle ? »
dit Mariette à Madame Duval-Noble.
« Je la croyais noyée. »
« Est-ce elle ? Elle me paraît 37 fois plus jeune et plus belle qu'il y a 6 ans. Elle s'est peut-être conservée comme Madame d'Espard et Madame Zajonchek dans la glace, dit le comte de Brambourg. Ce parvenu avait conduit les 3 femmes au spectacle, dans une loge du rez-de-chaussée.
« N'est-ce pas le rat que vous vouliez m'envoyer pour empaumer mon oncle ? »
dit Philippe à Tullia.
« Précisément, dit Tullia. Du Bruel, allez donc à l'orchestre, voir si c'est bien elle.
« Fait-elle sa tête ? » s'écria Madame Duval-Noble en se servant d'une admirable expression du vocabulaire des filles.
« Oh ! » s'écria le comte de Brambourg.
« Elle en a le droit, car elle est avec mon ami, le baron de Nucingen. J'y vais. »
« Est-ce que ce serait cette prétendue Jeanne d'Arc qui a conquis Nucingen et avec laquelle on nous embête depuis 3 mois ?» dit Mariette.
« Bonsoir, mon cher baron, dit Philippe Bridau en entrant dans la loge d'Esther. « Vous voilà donc marié avec mademoiselle Esther ?»«
Mademoiselle, je suis un pauvre officier que vous deviez jadis tirer d'un mauvais pas à Issoudun. »
Philippe Bridau.
connais pas,
dit Esther en braquant ses jumelles sur la salle.
Mante-misèle, répondit le baron, ne s'appelle plis Esther, dit court. Elle a nom Madame de Champy,
entre parenthèses Champy,
à une petite bienne que je lui ai achetée.
Si vous faites bien les choses, dit le comte, ces dames disent que Madame Champy fait trop sa tête.
Si vous ne voulez pas vous souvenir de moi, daignerez-vous reconnaître Mariette, Tullia, Madame du Val-Noble ?
Dit le colonel en faveur auprès du dauphin.
Si ces dames sont bonnes pour moi, je suis disposé à leur être très agréable,
répondit sèchement Madame de Champy.
Bonnes, dit Philippe, elles sont excellentes, elles vous surnomment Jeanne d'Arc. Eh bien, si ces dames veulent vous tenir compagnie, dit Nucingen, je vous laisserai seule, car j'ai trop mangé. Votre voiture viendra vous prendre avec vos champs. Tiaple tassi.
Pour la première fois, vous me laisseriez seule, dit Esther.
Allons donc, il faut savoir mourir sur votre bord. J'ai besoin de mon homme pour sortir. Si j'étais insultée, je crierais donc pour rien.
L'égoïsme du vieux millionnaire dut céder devant les obligations de l'amoureux. Le baron souffrit et resta. Esther avait ses raisons pour garder le baron. Si elle devait recevoir les visites de ses anciennes connaissances, elle ne devait pas être questionnée aussi sérieusement en compagnie qu'elle l'aurait été seule. Philippe Bridau se hâta de revenir dans la loge des danseuses.
« Ah, c'est elle qui hérite de ma maison, de la rue Saint-Georges !»
dit au comte de Brambourg, avec amertume, Madame du Val-Noble, qui, dans le langage de ces sortes de femmes, se trouvait à pied.
Probablement, répondit-il. Du Tillet m'a dit que le baron y avait dépensé 3 fois autant que votre pauvre Falex.
Allons donc la voir, dit Tullia.
Ma foi, non, répliqua Mariette. Elle est trop belle, j'irai la voir chez elle.
Je me trouve assez bien pour me risquer, répondit Tullia. Tullia vint donc au premier entracte et renouvela connaissance avec Esther, qui se tint dans les généralités.
« Et d'où reviens-tu, ma chère enfant ? » demanda la danseuse, qui n'en pouvait mais de curiosité.
« Oh, je suis restée pendant 5 ans dans un château des Alpes, avec un Anglais jaloux comme un tigre, un nabab. Je l'appelais un nabot, car il n'était pas si grand que le bailli de Ferrette. Et je suis retombée à un banquier. » De Caraïbes en syllabes, comme dit Florine. Aussi, maintenant que me voilà revenu à Paris, ai-je des envies de m'amuser qui me vont rendre un vrai carnaval. J'aurai maison ouverte. Ah, il faut me refaire de 5 ans de solitude. Et je commence à me rattraper. 5 ans d'anglais, c'est trop, d'après les affiches. On doit n'y être que 6 semaines.
Est-ce le baron qui t'a donné cette dentelle ?
« Non, c'est un reste de nabab. Ai-je du malheur, ma chère ? Il était jaune comme un rire d'ami devant un succès. J'ai cru qu'il en mourrait en 10 mois. Bah, il était fort comme une alpe. Il faut se défier de tous ceux qui se disent malades du foie. Je ne veux plus entendre parler de foie. J'ai eu trop de foie au proverbe. Ce nabab m'a volé. Il est mort sans faire de testament, et la famille m'a mise à la porte comme si j'avais eu la peste. » Aussi j'ai dit à ce gros-là, « Paix pour deux. Vous avez bien raison de m'appeler une Jeanne d'Arc. J'ai perdu l'Angleterre et je mourrai peut-être brûlée. »
« D'amour, » dit Tullia.
« Et vive, » répondit Esther, que ce mot rendit songeuse. Le baron riait de toutes ces niaiseries au gros sel, mais il ne les comprenait pas toujours sur le champ, en sorte que son rire ressemblait à ces fusées oubliées qui partent après un feu d'artifice. Nous vivons tous dans une sphère quelconque, et les habitants de toutes les sphères sont doués d'une dose égale de curiosité. Le lendemain, à l'opéra, l'aventure du retour d'Esther fut la nouvelle des coulisses. Le matin, de 2 heures à 4 heures, tout le Paris des Champs-Élysées avait reconnu la torpille, et savait enfin
quel était l'objet de la passion du baron de Nucingen.
« Savez-vous, disait Blondet à de Marsay, dans le foyer de l'opéra,
que la torpille a disparu le lendemain du jour où nous l'avons reconnue ici pour être la maîtresse du petit Rubempré ?
À Paris, comme en province, tout se sait. La police de la rue de Jérusalem n'est pas si bien faite que celle du monde, où chacun s'espionne sans le savoir.
Aussi Carlos avait-il bien deviné quel était le danger de la position de Lucien pendant et après la rue Thébout.